docteurs Philippe et Margaret de Beaulieu.
Nous sommes là pour vous.
Pour répondre à vos questionnements.
Vos doutes.
Mais aussi vos angoisses.
Service public, attention,
oui, là.
Attention.
Ouh là là,
hein? D'accord. Laissons les mots, hein, M-O-T-S, pour vos mots, M-A-U-X.
À votre écoute, coûte que coûte.
Ah oui.
Du lundi au vendredi à 12h20 sur France Inter.
À demain.
France Inter. La différence.
Et vous avez rendez-vous maintenant avec Daniel Mermet pour Là-bas si j'y suis. Bip.
Salut Daniel, j'étais tellement fasciné, j'ai pris une telle claque en écoutant le discours de ce grand résistant au plateau des Aiguières dans ton émission d'hier, que j'ai même pas retenu son nom. J'ai un peu honte, mais j'ai pris une telle baffe. Waouh, ça c'est pas du discours de communicant. Et franchement, ça, j'espère que tu vas le laisser à demeure définitivement sur ton site pour que tout un chacun puisse le faire écouter, réécouter, réécouter, le diffuser un peu partout. Et notamment, si on pouvait faire entendre ça à tous les écoliers de France, je crois que ce serait vraiment une très très belle chose, une très très bonne chose. Bravo. Là, vraiment, je m'en suis même pas remis, là. Waouh.
Oui, bonjour Robert et Clément. Bien écoutez, j'ai écouté comme souvent, chaque fois que c'est possible, et en particulier aujourd'hui sur les lières. Merci, voilà. Rien à rajouter. Merci, merci, merci.
Salut Mermel, c'est Francis d'Avignon. Là. Je téléphonais, c'était par rapport aux retraites. Je voudrais que les socialistes ils réparent ce qu'ils ont un peu fait, quoi. C'est par rapport au fait qu'ils ne veulent pas tenir compte du temps de chômage dans le calcul des retraites. Alors, je vais raconter une petite histoire. En 85, après l'armée, j'ai commencé à travailler. C'était l'année où ils ont mis au point des contrats à durée déterminée. Depuis donc 85, ça fait 27 ans, j'ai pas un contrat qui a dépassé 8 mois. Et j'ai rarement dépassé 1000 euros, ça veut dire 6500 francs. Quoi. Et là, j'ai 50 piges, je bosse. Et je fais entre 400, 480 euros et 900 euros par mois, au mieux. Donc là, à la présidentielle, j'avais voté Front de Gauche. Puis j'avais pas du tout l'intention de voter pour un social-démocrate. Puis j'ai été convaincu par Mélenchon. Là, je savais que j'allais être trahi, mais enfin, j'ai mis des gants propres et puis je suis allé voter, quoi. Et je me suis dit, je ne vais pas trop attendre pour être déçu par les socialistes. Et en fin de compte, ben ça y est, il est président. Et 15 jours après, qu'est-ce que la France ? Qu'ils n'ont pas envie de tenir compte du temps de chômage dans les retraites. Alors, moi, ça fait 2 ans que je ne touche plus au chômage. Hein, je suis toujours inscrit. Voilà. C'était juste pour dire aux socialistes que je ne pensais pas que j'allais être aussi vite déçu, quand même.
Bonjour Daniel, bonjour l'équipe de Là-bas si j'y suis. Voilà, j'en ai assez d'entendre dire que les Grecs sont tous des paresseux. En fait, si on fait le calcul de la dette par habitant, et si on fait un calcul très simple, c'est-à-dire 350 milliards divisé par 11 millions chez les Grecs, leur dette s'élève à 32 milliards par million d'habitants. Et si on fait le même rapport avec la dette française, 1850 milliards de dettes divisées par 60 millions d'habitants, on tombe sur un chiffre de 30,8 milliards de dettes par million d'habitants. C'est un calcul très simple, la différence n'est pas énorme et nous sommes aussi paresseux que les Grecs alors.
Merci pour tous ces messages. Ici, c'est le printemps érable. On est arrivé à Montréal dans un concert de casseroles le soir. Chaque soir, vous le savez sans doute, on se réunit, on tape sur des casseroles et puis on se lance dans des manifs à itinéraire surprise et jusqu'à 1h ou 2h du matin, on marche à travers Montréal, 15, 20 kilomètres parfois, avec un carré rouge au revers de la chemise, de la veste. Et c'est joyeux, c'est inattendu, c'est surprenant. Bien sûr que, en principe, le motif de ces manifs qui durent depuis des jours et des jours et des nuits, donc, c'est le montant d'inscription à l'université, mais bien au-delà, c'est une lutte qui fait partie de la guerre acharnée et puissante que nous livre le camp néolibéral. On continue donc aujourd'hui. Ça peut être un lien d'ailleurs avec notre sujet du jour, Bible ou Darwin. Chez les voisins américains de nos amis québécois, on croit majoritairement que Dieu a créé les humains dans leur forme actuelle. On croit majoritairement que le monde a été créé en 6 jours. 65% des Américains souhaitent que le créationnisme soit enseigné à l'école. C'est quand même assez étonnant. Alors aujourd'hui, on retourne à San Diego, on fait un tour à Paris sur ce thème, Bible ou Darwin, et il se pourrait bien qu'il y ait un lien entre l'enseignement tel que ceux qui manifestent dans les rues le souhaitent et tel qu'il est dispensé aux États-Unis, qui fait modèle pour ceux qui veulent réformer l'enseignement supérieur ici au Québec. Donc aujourd'hui, Bible ou Darwin. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour aux MG d'Aix-en-Provence. Le prochain repère des auditeurs modestes et géniaux du pays d'Aix se réunira ce mardi 29 à 19h30 au restaurant Le Coton Rouge. 4 chemins du Coton Rouge, c'est à côté de la cité universitaire d'Arc-de-Méran, près du viaduc SNCF. Nous parlerons d'un sujet brûlant, les enjeux des élections législatives. Je vous remercie.
Oui, bonjour les AMG de Haute-Savoie et d'ailleurs. Le repère de Servent sera déplacé d'un jour. Il n'aura pas lieu ce mercredi 29, car les copains d'attaque projettent un film important en cette période d'élection, Main brune sur la ville, au cinéma Le France de Tonon, suivi d'un échange avec le réalisateur. Donc le repère aura lieu le lendemain, mercredi 30, comme d'habitude, chez Lulu. Alors venez nombreux à Servent, c'est un valeureux village entre Annemasse et Tonon. Et merci encore au CRHA pour leur énorme travail de ce week-end.
Bonjour, voilà, j'écoutais votre émission sur Hélène Beaumont en podcast et j'ai pensé que notre projet pouvait vous intéresser. Ça fait un an que nous travaillons autour de la mémoire des anciens salariés des usines Penaroya Metal Europe. Presque aucune trace matérielle visible de cette épopée industrielle ne subsiste à l'heure actuelle. En revanche, la mémoire des hommes et des femmes ayant participé à cette aventure existe bel et bien. Leurs témoignages représentent une véritable richesse et constituent un patrimoine à part entière qu'il faut sauvegarder. Une exposition sera visible à Roubaix les 16, 17, 23 et 24 juin. Nous sommes l'Anachronique Symposium Committee, www.a-symposium.com. Je vous remercie.
Karl Marx is considered to be the chief founder of communism. Also, he was a professing Christian in his youth. He became an atheist and, according to some, a satanist in college.
Fundamentalism versus modernism.
Ça ne date pas d'aujourd'hui. Entre les deux guerres, déjà, la querelle des anciens et des modernes faisait la une. Évangéliste contre darwinien, créationniste contre évolutionniste, l'homme descend-il d'Adam ou du singe ? Mais voilà que dans la foulée de la poussée des fondamentalistes chrétiens, le sujet revient au galop, avec un vrai procès, une mise en accusation en bonne et due forme du darwinisme.
Sortons de ce couloir, parce que là, il y a Marx, Nietzsche, Darwin. Je préfère pas rester en mauvaise compagnie, là. Je pense que ça risque de perturber notre foi. Viens, viens, Antoine, reste pas là, reste pas là.
Dans leur DVD de propagande, ils partent de l'étincelle initiale, de la complexité de la cellule de base, de l'ADN, que Darwin naturellement ignorait, et en tirent la conclusion suivante. Pour expliquer cette architecture complexe, disent-ils, il faut bien qu'il y ait eu, je cite, un designer intelligent, un créateur. Mais le mot n'est jamais utilisé, pas plus que celui de Dieu.
Avec un décor de tube à essai, avec des petits produits verts de toutes les couleurs qui bouillonnent.
Et des bulles et tout. Là, on nous explique comme quoi la tectonique des plaques, c'est faux. On nous explique ici comme quoi le Grand Canyon a été créé avec la main de Dieu. Ici, on nous explique que le sélacanthe, qui est un fossile vivant, c'est donc bien la preuve que les dinosaures ont pu survivre, certains d'entre eux ont pu survivre au déluge. Les cyclones, qui sont une rémanence du déluge.
C'est limpide.
Je veux qu'en sortant, vous puissiez dire « Oui, on reprend les choses en main. » C'est avec ce cri de guerre que j'aimerais vous laisser. On reprend les choses en main. En tant que chrétiens, nous devons réécrire la géologie, la biologie, l'anthropologie. Nous allons revenir à l'histoire telle qu'elle est décrite dans la Bible. On va reprendre les dinosaures et nous allons signifier au monde que nous allons tout faire pour prêcher l'Évangile et revenir à l'autorité de la parole de Dieu.
He's available at the moment.
Ah, so we better do it,
it
right now.
It would be good.
Voilà, John Morris, who is the founder.
The president, not the founder. Founder is his father.
Ouais. Le fils du fondateur et qui est le président du centre de recherche créationniste est prêt à nous recevoir maintenant.
Eh ben allons-y, parfait. Okay.
Donc c'est pas le père, c'est le fils.
Oui, mais c'est déjà pas mal. Tu sais,
mais on aurait pu voir le Saint-Esprit ou pas?
Oui, bien sûr. Attends.
Quelle bande de mécréants. C'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Antoine Chao et Guy Vanctil. Une heure entière entre la Bible et Darwin.
Flight number 2, arriving from New York.
Sur le Colorado, on peut rechercher le grand frisson des rapides, le choc esthétique du Grand Canyon ou une étrange quête spirituelle sur les traces de la Genèse. C'est le cas de ces évangélistes purs et durs. Pour eux, c'est la Bible qui servira de guide.
Si vous prenez la Bible comme référence, si vous avez un regard biblique sur les choses, ce que vous découvrirez, c'est que la réalité correspond à ce qui est écrit dans le livre.
À peine débarqué de l'hélicoptère qui emmène le petit groupe au fond du canyon, Tom Vail va annoncer la couleur, son acte de foi et la théorie qu'il a mise au point.
Pour nous, créationnistes, la Terre a 6000 ans environ. 1500 ans après la création, il y a eu le grand déluge et tout ce que vous voyez ici dans le Grand Canyon, toutes ces strates de haut en bas, sont le résultat de l'inondation qui a suivi.
Et combien de temps ça a pris?
Pas plus de quelques jours, oui, quelques jours.
Évidemment, c'est en contradiction avec les géologues, pour lesquels le Grand Canyon est le fruit d'un long travail d'érosion sur 2 milliards d'années. Tout le but de la croisière de 2 jours sur la rivière va donc être de démolir la théorie scientifique. Et aucun des 21 pèlerins venus écouter la bonne parole ne trouve à y redire.
Pour moi, ce voyage, ça renforce ma foi. Quand on voit tout ça, on se dit que ça ne peut être que la création de Dieu.
Tous ces matériaux, toutes ces formations géologiques, c'est un témoignage de la puissance de Dieu et de sa gloire.
Bonjour à tous, bonjour à tous. Je m'appelle Dan et nous allons effectuer ensemble un formidable voyage au cours duquel nous allons pouvoir répondre à quelques questions fondamentales. Quelle est la signification de la vie? Quel est le but de la vie? Voilà, chers AMG, amis, modestes et géniaux, nous sommes au musée de la création et de l'histoire de la Terre, à Santee, en Californie, une banlieue dans les collines près de San Diego. Et ce musée de la création est une annexe de l'Institut pour la recherche sur la création. Alors, on est avec un petit groupe de visiteurs, de papas, de mamans et de gentils enfants. Et alors, on évolue dans différentes salles avec des lumières bleutées, tamisées, des photos géantes de la planète et des citations de la Bible. On apprend que la Terre est âgée de 6000 ans et qu'elle a été créée en 6 jours. La Bible le dit, donc c'est vrai, Dieu est à l'origine du monde. Et à cette époque, les dinosaures ne mangeaient pas de viande et vivaient en bonne intelligence avec les hommes. La mort n'existait pas jusqu'à la malédiction, le péché d'Adam. Nous ne détestons pas les évolutionnistes, dit le guide ou la guide selon les jours. Nous détestons l'évolution. Ça ne marche pas. Voilà. L'évolution, ça ne marche pas. Ce qui marche, eh bien, c'est ça, c'est la preuve Et on l'a sous les yeux. De quoi vous voulez encore douter ? Alors voilà, vous connaissez ce conflit entre créationnistes et évolutionnistes, entre la Bible et Darwin. Et c'est cette opposition qu'on va faire vivre jusqu'à 16 heures. C'est une opposition, mais en faisant ça, nous faisons une concession aux créationnistes. Parce que c'est exactement le même principe que les révisionnistes ou les négationnistes qui, il y a 30 ans, ont dit « les chambres à gaz n'existent pas ». Et c'est un délire total, évidemment. On avait toutes les preuves, les témoignages de cette tragédie. Mais ils ont insisté. Ils ont dit, mais qu'est-ce que... Nous voulons discuter avec vous. On veut simplement débattre. On n'est pas sûr de ce que nous avançons. Mais nous voulons débattre avec vous. Théorie contre théorie. Ce qui revient à dire que les chambres à gaz, c'est une théorie comme une autre. Et c'est une façon de mettre en doute et en cause quelque chose qui était évidemment évident. Eh bien, c'est exactement le même système. Et c'est la même attaque en disant, mais quoi, vous ne voulez pas débattre ? Donc, vous n'êtes pas des démocrates. Donc, qu'est-ce qui vous gêne dans ce qu'on dit ? Ah, vous nous censurez, vous ne voulez pas, etc. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis depuis pas mal d'années. Et on va voir que ces théories, cette démarche des créationnistes, eh bien, gagnent peu à peu aussi notre Europe, même notre France. Parce que les créationnistes se déguisent. Il y a tout un côté, évidemment, grotesque, comique, etc., de ces croyances qui nous font rigoler. Mais ils ont réussi à habiller outrement. Eh oui, l'adversaire change de masque. Leurs idées, et en les présentant d'une façon scientifique, cette fois à travers le IDE, c'est-à-dire l'intelligence design. On va voir tout ça d'un peu plus près, jusqu'à 16 heures, là-bas, si j'y suis. Bible ou Darwin ?
Au commencement des temps, il n'y avait rien que le vide, le désordre. Les ténèbres. Et il y avait Dieu. Et Dieu décida qu'il fallait créer le monde.
En sortant de ce couloir, parce que là, il y a Marx, Nietzsche, Darwin. Je préfère pas rester en mauvaise compagnie, là. Je pense que ça risque de perturber notre foi. Viens, Antoine, reste pas là.
Monsieur va nous répondre à la question.
Oui, oui. Hey. Alors, vous avez apprécié la visite ?
It's wonderful.
C'est merveilleux.
I have never seen the Creation Institute, but I have always believed in the biblical creation.
Je connaissais pas, j'étais jamais venu à l'Institut créationniste, mais j'ai toujours cru à la création d'après la Bible.
Voilà. What can I say?
Qu'est-ce que je peux dire d'autre?
D'accord. Donc vous pensez que effectivement Dieu a d'abord créé l'eau, l'air, la terre, etc. Ce qu'il nous a expliqué ici, ça vous semble, ça vous convient?
Oh yes.
Ouais.
Very
ouais,
much.
C'est
so.
Ça. Exactement.
We are modern. Bible is old.
Nous, on est des contemporains. La Bible est ancienne.
I want new stuff.
Moi, je veux quelque chose de neuf.
Bible's not good enough.
La Bible, c'est pas assez bien.
I'm smart.
Moi, je suis quelqu'un de malin.
I know what happened.
Moi, je sais ce qui s'est passé.
That's all wrong.
Tous ceux qui pensent ça, ils se trompent.
I have to go back to the old values.
Non, il faut revenir aux vieilles valeurs, aux valeurs anciennes.
C'est-à-dire lesquelles ?
Hard work.
Travailler dur.
Community.
La communauté, être ensemble.
Charity.
La charité.
Love.
L'amour du prochain.
Family values.
Les valeurs de la famille.
Without these, we, as a people, worldwide, cannot succeed.
Sans ça, nous, en tant que peuple et à travers le monde entier, on ne pourra pas y arriver.
Quelle est votre position sur l'avortement?
I am against abortion.
Je suis contre l'avortement.
The union of a human man and a human woman is going to be a human. It will not be a dog, a cat, a horse, a pig or a cow.
L'union d'un homme et d'une femme, tous les deux humains, ça créera un être humain, pas un chien, un chat ou un poisson.
Yeah. So I am against abortion.
C'est donc pour ça que je suis contre l'avortement.
Évidemment.
Voilà les réactions d'un visiteur de ce musée de Santee, donc à côté de San Diego. Il y a d'autres musées comme ça à travers les États-Unis, un autre grand, qui est un parc d'attractions d'ailleurs de la Kentucky. Et ce que dit ce monsieur-là, c'est pas très folklorique, hein. C'est pas on a pris un cas particulier, caricatural. Non, non, c'est ce que pense une bonne partie des États-Uniens, des citoyens des États-Unis. Et ça donne une idée des précautions que les candidats doivent prendre vis-à-vis de cet électorat qui majoritairement partage les convictions de ce visiteur.
Day 3, when God made all the plants, and that we don't have some of them today, and they're found in the fossil record.
Le troisième jour, Dieu a créé les plantes.
And how they were really big.
Et on a retrouvé des plantes énormes.
Savez-vous,
il y a des cafards dans les fossiles qui font 40 cm de long. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe au quatrième jour? Alors, levez-vous et allons jusqu'au jour suivant, le quatrième jour.
On a loupé les trois premiers jours.
On arrive pour le jour 4, c'est une salle obscure avec des
enfants qui sont assis dans cette salle obscure. Très souvent, ce sont leurs parents qui sont avec eux derrière.
Alors, les règles, c'est que tout le monde doit être bien assis. Pas sur les genoux, asseyez-vous les jambes croisées. En tailleur. Qu'est-ce que Dieu a créé le quatrième jour?
Les stars et quoi d'autre?
Les étoiles, oui, quoi d'autre?
You know, there are planets and comets and other things out in our universe, but we believe that God created all the other planets,
les comètes, tout ce qu'il y a dans le ciel. Eh bien, Dieu a créé tous les corps célestes le quatrième jour. Est-ce que quelqu'un peut me dire le nom d'une planète?
Yes.
Saturn.
Yes.
Jupiter.
Venus. All right. And the thing you'll notice about our planets and our solar system is there's only one planet with life on it. Right?
Which planet is that? Il y a une seule planète sur notre système solaire qui abrite la vie, c'est laquelle? Oui, c'est la Terre.
Muséum national d'histoire naturelle, la Galerie de l'Évolution, Paris.
Où nous retrouvons Guillaume Lecointre. On passe d'un musée à l'autre. D'un musée, ce musée en Californie, le musée de Santee, des créationnistes, et nous sommes à Paris. Avec ce scientifique, ce zoologiste et systématicien français qui, entre autres activités, se bat contre ces théories fumeuses.
Je suis Guillaume Lecointre, je suis professeur au Muséum national d'histoire naturelle et directeur du département qui s'appelle Systématique et évolution, un département de recherche dans l'établissement.
Alors là, vous êtes devant un énorme squelette.
Une baleine.
Une baleine. Voilà. Donc on est à la galerie d'évolution. Et c'est ce mot évolution qui fait qu'on a envie de vous rencontrer, qui s'oppose, auquel on oppose le mot de création. Est-ce que vous pouvez poser alors le débat, vous allez nous dire que c'est pas un débat, hein, entre l'évolution, c'est-à-dire les thèses de Darwin sur lesquelles vous travaillez, et ce qu'on appelle aujourd'hui le créationnisme.
L'opposition évolution-création, elle ne se pose pas dans le secteur des sciences. Cette opposition, elle se pose sur le terrain philosophique ou sur le terrain métaphysique. Et là, en tant que scientifique professionnel, je n'ai rien à dire. Par contre, à l'intérieur des sciences, nous ne sommes pas outillés en sciences pour statuer sur une création. Une création, qu'est-ce que c'est? C'est une entité extérieure à la nature et qui agit sur elle. Nous n'avons pas de moyens expérimentaux pour avoir accès à cette entité. Donc pour nous, c'est quelque chose qui n'est pas testable. On ne peut pas statuer dessus. Par contre, l'évolution, ça, on peut expérimenter l'évolution sur des organismes à temps de génération court. Donc, n'oubliez jamais qu'il n'y aurait pas d'industrie agroalimentaire, pharmacologique ou phytosanitaire s'il n'y avait pas le phénomène évolutif comme phénomène biologique, expérimentable. Donc, l'évolution, faut rappeler effectivement que c'est un fait expérimentable et c'est aussi la théorie générale dans laquelle la biologie, l'anthropologie et la paléontologie travaillent aujourd'hui.
John Morris, Institut de recherche créationniste, San Diego.
Welcome. Come in. I'm a geologist.
Voilà, monsieur est un géologiste.
My name is Dr. John Morris.
Je suis Dr. John Morris.
Graduated from the University of Oklahoma.
Diplômé de l'Université d'Oklahoma.
I'm now the president of the Institute for Creation Research.
Je suis maintenant le président de l'Institut pour la recherche créationniste.
Here at ICR, we do research in this general subject of origins. How did we get here? Creation or evolution?
Et ici, nous recherchons justement sur les origines de notre monde. Comment nous sommes arrivés ici? Est-ce par la création ou par l'évolution?
Alors voilà, vous avez compris, nous sommes avec John Morris. Et c'est quelqu'un d'important, John Morris, parce qu'il est le fils d'Henry Morris, qui est l'un des pères fondateurs du mouvement créationniste aux États-Unis. Ça n'a pas toujours existé, ce mouvement, mais on va voir qu'il est toujours lié aux politiques. Reagan, dans les années 80, disait je ne descends pas du singe. Et par là même, il voulait plaire à cet électorat devenu majoritaire au moment où la Christian Coalition, les chrétiens évangéliques, sont entrés en politique à la fin des années 70. Jusque-là, les États-Unis, qui ont une constitution séculière, tenaient à distance l'influence religieuse sur le politique. Il y avait quand même une cloison, plus ou moins épaisse, bien évidemment, mais qui existait. Là, elle disparaît, et c'est une poussée des évangéliques, quoi, en gros, sur le politique. À l'intérieur de ce mouvement se trouvent les créationnistes qui visent l'idéal d'une théocratie, bien évidemment, mais qui, en attendant, constituent une clientèle électorale déterminante dans la vie politique du pays. Évidemment, toutes ces choses-là, Monsieur Morris ne va pas nous présenter les choses de cette façon, il va nous présenter les choses d'une façon scientifique.
Here at ICR, we do research in this general subject of origins. How did we get here? Creation or evolution?
Et ici, nous recherchons justement sur les origines de notre monde. Comment nous sommes arrivés ici? Est-ce par la création ou par l'évolution?
We believe in creation. But we're also Christians. We believe in the Bible.
Voilà, nous on croit à la création, mais on est aussi des chrétiens, donc on croit en ce que dit la Bible.
We have biologists here.
On a des biologistes,
geneticists,
des généticiens,
geologists, physicists, astronomers,
scientifiques, astronomes.
But we do our research from a biblical perspective. We believe that the biblical history is true, and science must, if we do it right, support that.
Voilà. Mais on fait nos recherches dans une perspective biblique. On pense que ce que la Bible dit est vrai et que la science, si elle est juste, doit s'y conformer.
Any scientist who studies the human body sees an amazing engineering work.
Chaque scientifique qui étudie le corps humain voit une espèce de mécanisme extraordinaire à l'œuvre.
It is unscientific to say that these things happened by chance.
C'est pas scientifique de dire que tout ça n'est possible que par le hasard ou la chance.
Enfin, on a compris. Pour vous, à l'origine de tout et de toute complexité, il y a Dieu.
We at the Institute for Creation Research, when we see this design, we see it's far beyond what human ingenuity could produce.
On voit, quand on voit ce dessin à l'œuvre, on voit que c'est bien au-delà de ce que toute l'ingéniosité humaine peut produire.
Oui, mais ça, il y a des tas de gens, de foi, qui sont des chrétiens et qui sont évolutionnistes.
They're wrong.
Mais moi, ce que je dis, c'est s'ils croient en l'évolution, c'est là où ils se trompent.
Bon, ben c'est fini. Oui, c'est ça.
Voilà.
C'est sûr, tu comprends? C'est une chose comme ça. C'est, ils ont tort. Et puis c'est tout,
that's
Antoine.
Voilà, on m'a trompé pendant 5 ans à la fac de Jussieu, où on m'a appris la physique.
We give master's degrees in physics.
Ils font des DEA en physique.
Est-ce que vous avez une preuve scientifique de l'existence de Dieu?
I think the fact that you are here is proof that there must be a God.
Le fait que toi tu sois là aussi, Antoine, prouve l'existence de Dieu.
C'est une preuve scientifique.
I think it is wholly unscientific to think that it all happened by chance.
Je crois qu'il est hautement ascientifique de croire que ce n'est que le fruit du hasard.
Donc toute votre théorie scientifique se base sur un postulat qui n'est pas prouvé scientifiquement.
It depends on how you define science.
Ça dépend de comment tu définis la science.
Muséum national d'histoire naturelle, la Galerie de l'évolution, Paris.
Mais l'origine des espèces, c'est-à-dire ce qui va heurter la conception qu'on avait jusque-là d'une origine telle que décrite dans la Bible. En quoi est-ce que Darwin s'oppose à la Bible ? La Bible contre Darwin, Darwin contre la Bible.
Darwin ne s'oppose pas nécessairement à la Bible, il ne fait pas volontairement. Il regarde la nature avec les outils intellectuels du scientifique. À son époque, on ne fait plus appel à la transcendance au sein même de l'explication scientifique. Depuis à peu près déjà une bonne centaine d'années. Le XVIIIe siècle a reconsidéré en quelque sorte le contrat que la science passe avec la connaissance. C'est-à-dire qu'à partir du XVIIIe siècle, même un peu du XVIIe, dès lors qu'on s'est mis à expérimenter vraiment, on a exclut du champ des sciences le recours à une transcendance omnipotente pour expliquer ce que l'on voit. S'il y a toute question que vous vous posez sur le monde réel, vous avez une réponse unique et omnipotente, c'est même pas la peine de commencer à faire une expérience.
Est-ce que vous pouvez nous parler de Darwin, de son rôle et de sa théorie ?
La déduction de Darwin, elle est la suivante, si on la ramasse extrêmement, de manière extrêmement courte. Darwin, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit qu'à l'intérieur de ce qu'on appelle une espèce, il y a de la variation. Il y a une aptitude naturelle des espèces à varier. On n'a pas tous la même tête, hein, et c'est ce qu'on appelle la variabilité, l'aptitude naturelle à varier. Deuxième constat, Darwin, il voit quoi ? Que les horticulteurs et les éleveurs sont capables d'emmener en quelque sorte les espèces là où ils veulent. En 10 000 ans, on fait du loup un teckel. Il y a donc une aptitude naturelle des espèces à être sélectionnées. Même si c'est l'homme qui sélectionne, les espèces, elles se laissent sélectionner. C'est ce qu'on appelle la sélectionnabilité.
Ici, la galerie de l'évolution est entièrement illustre ce que vous êtes en train de dire.
En partie, oui. Oui. La question que posait Darwin, la question qu'il se posait, c'est pourquoi la nature n'est pas un grand bazar ? Pourquoi tout ce qui a membres a déjà des vertèbres ? Pourquoi tout ce qui a vertèbres a déjà crâne ? Il n'y a pas de vertèbres en dehors de ceux qui ont déjà un crâne. Eh bien, pour répondre à cette question, y a-t-il un agent dans la nature qui explique l'ordre qu'on y voit, l'ordre apparent ? Darwin fait un troisième constat. C'est que chaque espèce a en potentialité une aptitude naturelle au surpeuplement. Le 19e siècle est riche d'exemples. Quand on prend une espèce d'un milieu et qu'on le transporte sur un autre continent, il y a deux réactions. Soit l'espèce disparaît, soit au contraire, elle pullule. Une fois que vous avez fait ces trois constats, Darwin fait son voyage sur le Beagle entre 1831 et 1835.
En terre de feu.
Voilà. Il passe quand même au Brésil, enfin, il fait à peu près une bonne partie de l'Amérique du Sud, et puis ensuite il contourne, il va aux Galapagos, etc. Lors de ce voyage, Darwin rencontre des milieux qui ne sont pas perturbés par l'homme. Darwin constate que moins le milieu est perturbé par l'homme, plus le milieu est riche en espèces. C'est surprenant. En dépit de la capacité de chacune à surpeupler, elle ne surpeuple pas. Eh bien, justement, Darwin fait une déduction. Chaque espèce représente, pour chacune des autres, une limite. Et voilà cet agent sélectif sur lequel il s'interrogeait. D'où cette idée de sélection naturelle. Malheureusement, on dit sélection naturelle, on pourrait préférer comme mot succès reproducteur différentiel. Et ça serait à peu près pareil.
Des arbres et des forêts.
Institut de recherche créationniste, San Diego. Alors, convaincu, Daniel ?
Une question. Oui, parce que moi, je me pose trois questions. La première, c'est d'où je viens, où je vais, et entre les deux, quel sens ça peut avoir ? Alors, je sais que je viens de Pavillon-sous-Bois. Où je vais ? Tu vois, c'est quand même flou. Hein ? Et puis, quel sens ça a, tout ça ? Tu vois ?
Il y a des petits documentaires, des petites revues, des petites brochures pour répondre à des questions. Par exemple, c'est la question 197. Combien de temps a duré le septième jour ?
Mais oui, parce que toi, tu crois que c'est des jours de 24 heures. Non, ça peut être des jours de 3000 ans.
Le septième jour devrait durer plusieurs milliers d'années.
Voilà.
Alors, les enfants, s'il vous plaît, asseyez-vous par terre à côté de l'exposition de papillons.
Isn't this a fun room,
everybody? Est-ce que c'est pas amusant, cette pièce? Ah oui, il y a plein d'animaux.
This is a fun room because now God is going to fill the earth that he's made.
Dieu va maintenant remplir le monde qu'il a créé. D'abord, il a rempli la mer avec tout ce qui vit dans la mer. Alors, qu'est-ce qui vit dans la mer?
Yes.
Fish.
Sharks. Seahorses, that's right. Thousands and millions of things live in the water.
C'est vrai que c'est séduisant ce qu'on raconte là, c'est merveilleux. C'est merveilleux, cela dit, notre musée d'évolution, la galerie d'évolution, à Paris, au muséum d'histoire naturelle, est très très belle aussi. Et on y apprend énormément de choses, mais peut-être pas ce que nous dit maintenant John Morris. Moi, je voudrais savoir ce que ça implique dans la vie aujourd'hui.
I think the evolution way of thinking impacts every area of life.
Je pense que la manière de penser de l'évolution a des conséquences sur tous les aspects de la vie.
Darwin's book Origin of Species. Hitler picked up that book and he says finally there is scientific justification for his way of thinking.
Par exemple, l'évolution, l'origine des espèces de Darwin, ce livre-là, Hitler l'a pris et il y a trouvé enfin la preuve de ce qu'il cherchait sur l'inégalité des races.
Donc, Darwin engendre Hitler.
Exactly.
Darwin rend Karl Marx possible.
In fact, Karl Marx asked Darwin if he could dedicate his book to Darwin.
En fait, Karl Marx a demandé à Darwin s'il pouvait lui dédier son livre, Das Kapital.
Das Kapital.
Darwin donne Freud aussi.
I think so.
Darwin, Rockefeller, etc.
These are presented in the museum.
Oui,
yes.
C'est ce qu'on montre dans le musée.
Oui, on l'a
entendu. All of that is the might makes right, struggle for existence. These are Darwin's phrases.
Oui, c'est toutes les phrases de Darwin sur la lutte pour la survie, par exemple.
I really think evolution is a cult of death.
Je crois vraiment que l'évolution est un culte de la mort.
The strong overcomes the weak.
Le plus fort écrase le plus faible.
Guillaume Lecointre, Muséum national d'histoire naturelle, Paris.
Comment ce sera reçu, les théories de Darwin en son temps, c'est-à-dire quoi, la moitié du 19e ?
Il y a un dévoiement du discours de Darwin par ses contemporains. Alors, quel est ce dévoiement ? Les implications de l'évolution du vivant sur les origines de l'homme, eh bien, Darwin n'en parle pas tout de suite, ou du moins, il n'est pas extrêmement loquace sur ces questions avant 1871. Entre 1859, date de la sortie de sa théorie, publication de sa théorie, l'origine des espèces, et 1871, date à laquelle il va vraiment prendre parole sur les implications que cette théorie a sur l'origine des sociétés humaines et même de la morale, eh bien, il y a un blanc de quelques années pendant lequel l'un de ses contemporains, Spencer, Herbert Spencer, va faire de la théorie de Darwin, qui n'est qu'une théorie scientifique, qui est humble en cela, une théorie qui n'est pas figée, qui est améliorable toujours, eh bien Spencer va en faire une philosophie, qu'on va appeler l'évolutionnisme. Et l'évolutionnisme de Spencer va transférer brutalement le succès reproducteur différentiel, hein, ce que j'appelais la modification des espèces par le succès reproducteur différentiel, il va le transposer dans les sociétés humaines. Et il va faire en quelque sorte cette espèce d'ode à la lutte pour la vie, mais cette fois-ci dans les sociétés humaines pour légitimer un statu quo économique, entretenir les plus forts, ne pas perdre son temps à, en quelque sorte, à porter secours aux plus faibles, etc.
Donc, et c'est là qu'un certain nombre de théories scélérates prendront leurs origines.
Exactement.
Je pense au nazisme, etc.
Alors, ce qu'on appelle le darwinisme social, malheureusement, encore une appellation malheureuse, on le doit à Spencer, à Herbert Spencer. Darwin s'exprime à l'opposé de Spencer sur ces questions-là. Et c'est malheureux. Ce qu'on appelle le darwinisme social, en fait, Darwin n'y a jamais donné aucun crédit. Il faudrait appeler ça, normalement, un spencerisme.
Institut de recherche créationniste, San Diego.
My name is Susan Witt.
Susan.
Susan.
And this is your girl?
Yes, my daughter Savannah, she's 5.
Savannah, ma fille qui a 5 ans.
Alors, vous êtes contente de la visite?
Absolutely loved it.
J'ai vraiment adoré.
C'était déjà vos idées ou vous êtes en train de découvrir?
I knew about it. I'm a native San Diegan. I grew up here and was always familiar with the Institute of Creation Research.
Non, moi je suis de San Diego, donc j'ai grandi ici et j'ai toujours connu cet institut de recherche créationniste.
Vous vous considérez comme créationniste vous-même?
Yes, I'm a Christian. I do believe in creation. And
oui, je suis une chrétienne et je crois à la création.
And as a homeschooler, I want to be able to teach my daughter not only from the Bible, but also the science that backs up the Bible and backs up what we believe.
Et comme je fais l'éducation à domicile, je voulais apprendre à ma fille aussi, pas simplement la version de la Bible, mais aussi des scientifiques qui lui disent à quel point la Bible a raison.
Vous faites l'instruction à domicile?
Yes, I do.
Ah, c'est-à-dire que vous ne la mettez pas dans l'enseignement public?
No, not at all.
Et pourquoi? À cause de l'évolutionnisme? C'est-à-dire que vous voudriez que le créationnisme soit enseigné à l'école?
Both of them, at least, and let the students choose from there.
Voilà, pour que les enfants puissent après choisir en connaissance de cause entre les deux théories.
Alors, donc, aujourd'hui, quels sont vos combats? Par exemple, vous parlez d'éducation.
Scientifically, we must show that evolution is not
John
Morris. Science.
On doit déjà montrer scientifiquement que l'évolution n'est pas de la vraie science.
But I think the main point is that evolution is a religion.
Mais surtout, c'est montrer que l'évolution est une religion.
It's not a fight of science versus religion.
C'est pas un combat entre la science et la religion qu'on est en train de montrer.
It's a fight of two religions and the science which supports each one.
C'est deux religions qui se combattent l'une et l'autre et qui utilisent chacune la science pour appuyer leur thèse.
Mais répondez à ma question. Je voudrais que vous nous disiez quels sont vos combats aujourd'hui en matière d'éducation.
Good science in the school.
La bonne science dans l'école.
I would like to get religion out of the schools.
Je voudrais qu'on sorte les religions de l'école.
Evolution is a religion.
L'évolution est une religion.
Evolution is not good science.
Ce n'est pas de la bonne science.
Let's get good science in the science classroom.
Allons apprendre de la bonne science dans les classes, dans les cours de sciences.
Donc, en matière d'éducation actuellement, pour essayer d'aller un peu plus droit sur les réponses et non pas tourner autour du pot, en matière d'éducation, vous soutenez la dame qui ne met pas sa fille à l'école ou pas?
The public schools teach, without controversy, the religion of Darwinism.
Les écoles publiques, dans les programmes scolaires, ils enseignent sans aucune controverse la religion du darwinisme.
Yes, and I would like to see that changed.
Et ça, c'est vrai que je voudrais que ça change.
D'accord. De quelle façon?
I would like to see science taught in science classrooms.
On enseigne la science dans les cours de science.
Everything about the human body.
On enseignerait tout le fonctionnement du corps humain.
You teach how it works, the
comment
genetics
ça marche,
of it,
la génétique,
the diseases of it,
les
the
maladies,
healing of it,
comment les guérir.
But you don't teach the origin of it. That's a different subject.
Mais pas les origines de tout ça. Ça, c'est un autre sujet.
We disagree about history.
On n'est pas d'accord sur l'histoire, sur ce qui vient avant.
God created humans as humans. They did not come from the animals.
Moi, je crois que Dieu a créé les humains en tant qu'humains et qu'ils ne viennent pas des animaux.
This is supposed to make you feel like you're on a room in the ark. You're surrounded by wood. It was sealed with pitch.
On est dans l'arche de Noé, entouré de bois en mer.
Can you hear something?
Vous entendez quelque chose?
Sounds like water.
Sounds like water. What else?
I know.
En fait, ici, c'est une Bible à trois dimensions, quoi. C'est ça?
Ouais, ouais. Ça fait longtemps que ça existe. Toutes les représentations qu'on avait jusqu'aux lumières, c'était ça. Là, c'est le grand bond en arrière d'avant les lumières.
Guillaume Lecointre, Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris.
À partir de quand les thèses créationnistes
se développent et viennent combattre les thèses évolutionnistes.
Oui, alors effectivement, c'est aux États-Unis que l'affaire a pris le plus de force, et puis dans une bonne mesure aussi en Australie, hein, des pays qui donc sont souvent habités par un fondamentalisme protestant, enfin une société dans laquelle le fondamentalisme protestant a de puissants leviers d'action. Oui, alors à partir de quand, au début, le créationnisme tel qu'il existait à la charnière 19e-20e siècle, même jusque dans les années 20, c'est un créationnisme négateur, c'est-à-dire qu'on va nier le contenu de la science. Alors, il arrive un moment où les créationnistes, notamment aux États-Unis, sont en perte de vitesse. Ils arrivent à faire passer dans les années 20 et 30 des lois anti-enseignement de l'évolution dans les États du Sud. Dans les années 60, aux États-Unis, on annule ces lois. Et donc là, les créationnistes sentent un besoin d'un rebond, en quelque sorte. Et le rebond stratégique, ça va être le programme de Maurice et Gish, les deux plus connus des créationnistes mimétiques, vont dire « ne niez plus la science, vendez plus de science, soyez plus scientifiques que les scientifiques ». Alors leur programme, c'est de prouver scientifiquement le contenu littéral du texte sacré. On va simuler la science de manière à convaincre les citoyens. Et puis, avec l'arrivée de Ronald Reagan en 79, Reagan s'exprime en 80 sur les théories de l'évolution, sans aucune compétence d'ailleurs. Il dit...
Je préfère descendre d'Adam et Ève que d'un singe.
Voilà. Donc il envoie un clin d'œil extrêmement puissant à son électorat conservateur qui lutte contre la laïcité américaine. Et dans les mêmes États du Sud, de nouveaux procès ont lieu contre l'enseignement de ce qu'on appelle un balanced treatment, un enseignement balancé, c'est-à-dire d'enseigner à 50% la théorie de la création, comme si la théorie de la création était une théorie scientifique, et à 50% la théorie de l'évolution, vous voyez. Et donc, le balanced treatment, il fait l'objet d'un procès fameux dans l'Arkansas en 1981, et il est rejeté. Donc, deuxième défaite pour les créationnistes, il va falloir changer encore de stratégie. Changement de stratégie, dans les années 90, une nouvelle forme de contestation de la théorie de l'évolution voit le jour à travers ce qu'on appelle l'intelligent design, c'est-à-dire ID, soi-disant théorie scientifique du dessin intelligent. Alors que les créationnismes antérieurs étaient très axés sur le monde protestant, l'intelligent design, il vous laisse libre de mettre ce que vous voulez dans la case transcendance. Vous pouvez y mettre Bouddha, vous pouvez y mettre...
Choisissez votre créateur.
Choisissez votre créateur, exactement. En reprenant une vieille idée, c'est l'horloger du théologien William Paley, 1802. William Paley est théologien anglican. En 1802, il émet cette idée. Je trouve une montre par terre, j'ouvre la montre, je constate que chaque pièce de la montre a une forme rigoureusement et merveilleusement agencée à la fonction qu'elle remplit. J'en induis une conception intelligente de cette montre, j'en induis l'existence d'un horloger. Et il transpose cette image dans la nature, directement. C'est une vieille idée, il n'y a rien de nouveau. Seulement, avec l'intelligent design, on vous déguise cette idée de biologie moléculaire, de biochimie. On dit « Ah, mais la régulation génétique, c'est trop compliqué pour pouvoir être expliqué par variation-sélection. La régulation biochimique d'une cellule, c'est trop compliqué. » Donc on descend ça à des niveaux d'intégration très petits. On descend ça au niveau infracellulaire pour que ça paraisse scientifique. Et sur les sites web, des élèves de nos classes s'y font prendre. Ils ont l'impression que c'est scientifique parce qu'on parle de biologie moléculaire.
Muséum national d'histoire naturelle, Paris.
Derrière ces idées créationnistes, là, vous parlez de Reagan, vous allez sans doute nous parler de Bush, qui lui aussi créationniste, avec un clin d'œil à son électorat. 60% des États-Uniens sont persuadés que Dieu a créé le monde en 6 jours. Donc on voit bien que s'il y a 60% des États-Uniens qui croient ça, il est tout à fait normal qu'un candidat essaye de séduire cet électorat. C'est tout simple.
Oui. C'est quand même dans la mouvance politique de Bush
que le Discovery Institute s'est formé, cet institut qui a donné naissance à l'idée de dessin intelligent telle qu'elle prend forme dans les années 2000. Hein. C'est-à-dire, c'est quand même ce qu'on appelle un think tank, c'est une boîte à idées conservatrice où on propose une science mise au service de la théologie pour que la science se soumette en quelque sorte à celle-ci et soit un des leviers de la mise en place de ce qu'on appelle une théocratie, c'est-à-dire d'un État qui est mu par des principes et une organisation sociale et politique religieuse. Hein. Donc allez voir, je vous renvoie vers le fameux Wedge Document, le plan d'attaque de ce think tank conservateur, et ils veulent que toute la vie politique, culturelle et sociale du pays soit habitée par l'idée de Dieu dans un horizon de 15 ou 20 ans, science comprise. Science comprise. Donc on est là dans un véritable programme politique conservateur de faire des États-Unis d'Amérique une théocratie.
Oh, my name, it ain't nothing. My age, it means less. The country I come from is called the Midwest. I was taught and brought up there, the laws to abide, and that the land that I live in has God on its side. Oh, the history books tell it, they tell it so well. The cavalry's charged, the Indians fell. The cavalry's charged, the Indians died. Oh, the country was young with God on its side. But now we got weapons of chemical dust. If I them were forced to, then fire them we must. One push of the button and it shot the world wide. And you never ask questions when God's on your side.
C'était Bible ou Darwin entre créationniste et évolutionniste, une nouvelle version d'un reportage de Daniel Mermet, Antoine Chao et Guy Van Ctil, réalisé à San Diego en Californie et à Paris. Première diffusion le 5 septembre 2008. Merci à Guillaume Lecointre, Olivier Brosseau et Flore Geffroy. À lire sur le sujet L'Amérique entre la Bible et Darwin de Dominique Lecourt aux Presses universitaires de France. À lire également Les créationnismes, une menace pour la société française d'Olivier Brosseau et Cyril Baudouin aux éditions Sileps. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique Émissions, là-bas si j'y suis, sur le site la-bas.org ainsi que sur la page Facebook. À la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos, réalisation Bertrand Chometon et Franck Adhérer, assistante Marina Touillez, chef du répondeur Greg Grégory Salomonovitch qui attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
D'abord j'ai eu Sushi, mon poisson rouge. Mais depuis que j'ai gagné à Euromillions et que j'ai eu Raoul, ma baleine, j'ai acheté un aquarium vraiment plus grand. Bah oui, comme Raoul joue à saute-mouton avec Sushi. Oh Raoul, papa est encore tout mouillé.
Euromillions, et si votre vie devenait infiniment plus riche?
Tirage Euromillions le vendredi et le mardi. Ce mardi, jackpot de près de 99 millions d'euros. À partager au rang 1, voire règlement.
FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
France Inter, partenaire du Festival de Saint-Denis du 31 mai au 30 juin. Colin Davis, Daniel Harding, John Elliott Gardiner, trois chefs anglais. Mozart, Schubert, Berlioz, trois chefs-d'œuvre dans la basilique. Retrouvez le Festival de Saint-Denis dans les programmes de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter présente « Vers les lueurs » de Dominique A. Le chanteur revient avec 13 nouveaux titres lumineux.
Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau.
Dominique A en tournée dans toute la France et le 20 juin au Casino de Paris.
Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, si le monde était beau, nous l'avons caché.
Retrouvez Dominique A dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr.
À suivre, Carrefour de l'Odéon. Bon après-midi à l'écoute de France Inter, il est tout pile 16h. Le flash vous est présenté par Laetitia Gaillet, bonjour.
Bonjour, le bilan du tremblement de terre ce matin en Italie s'est alourdi. Il est désormais de 15 morts. Selon les autorités italiennes, 4 ou 5 personnes sont toujours portées disparues. Il y a eu cet après-midi une réplique d'ailleurs au séisme. Plusieurs bâtiments déjà endommagés par le premier tremblement de terre il y a 9 jours se sont effondrés. Les secousses d'aujourd'hui dans la région de Modène ont été visiblement plus fortes. On reste en Italie. Mario Monti s'est exprimé aujourd'hui sur le scandale des matchs truqués qui frappent le football italien. Le président du conseil suggère aujourd'hui à titre personnel que le foot soit mis à l'arrêt pendant 2 à 3 ans. La réponse de Bachar el-Assad à Kofi Annan. Le succès du plan de paix de l'émissaire des Nations Unies et de la Ligue arabe dépend de la fin du terrorisme et de l'arrêt de la contrebande d'armes. Le président syrien a reçu ce matin à Damas Kofi Annan qui lui a fait part des préoccupations de la communauté internationale suite au massacre de Houla vendredi. La communauté internationale qui a par ailleurs réagi aujourd'hui de manière concertée selon François Hollande. La France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, le Canada et l'Australie ont tous expulsé leurs ambassadeurs syriens respectifs. En France, le premier tour des élections législatives, c'est le 10 juin prochain, mais les Français de l'étranger ont déjà voté via Internet. 130 000 au total, selon le ministère des Affaires étrangères aujourd'hui, c'est une première. Ceux qui n'ont pas voté via Internet pourront le faire dans les 800 bureaux de vote ouverts les 2 et 3 juin prochains dans les différentes régions du monde. Andy Schleck a reçu aujourd'hui le maillot jaune du vainqueur du Tour de France 2010. Il avait terminé à l'époque deuxième derrière l'Espagnol Contador, qui avait ensuite été déclassé suite à un contrôle positif. L'auteur du match marathon du jour s'appelle Jérémy Chardy à Roland-Garros. Le Français s'est qualifié pour le second tour de la compétition en battant en 5-7 le Taïwanais Yen Sun. 11 jeux à 9 pour le dernier set. Au second tour, Chardy aura un gros morceau. Tipsarevic, tête de série numéro 8. Qualifié aussi Richard Gasquet, vainqueur en 3-7 de l'Estonien Zop. C'est fini en revanche pour la Française Pauline Parmentier. Et maintenant, on suit l'entrée en lice du maître des lieux, Matteo Maestrachi, Rafael Nadal.
Exactement, l'Espagnol numéro 2 mondial. 6 fois titré ici à Roland-Garros, qui joue actuellement sur le court central depuis environ une demi-heure. Rafael Nadal qui est opposé à Simone Bolelli, l'Italien, qui lui est classé 111e au classement ATP. Donc opposition très déséquilibrée sur le papier, d'autant que Nadal a remporté les 2 précédentes confrontations avec son adversaire du jour. Rafael Nadal, on le disait, qui a gagné 6 fois Roland-Garros et qui cette année vise un 7e sacre porte d'Auteuil pour dépasser Bjorn Borg, pour battre un nouveau record personnel. Rafael Nadal qui a été dépossédé l'an dernier, on s'en souvient, de sa place de numéro 1 mondial par Novak Djokovic, qui est le co-favori de cette édition 2012 de Roland-Garros. Mais Rafael Nadal a repris du poil de la bête récemment sur terre battue. Il a notamment battu Djokovic en finale 2 fois récemment. C'était le cas au tournoi de Rome et au tournoi de Monte Carlo. On joue donc depuis une demi-heure et Rafael Nadal, il y a quelques instants, a fait le break pour mener 4-2 face à Bolelli dans cette première manche. Et là, il sert pour éventuellement mener 5-2 dans cette première manche. Pour l'instant, tout se passe bien pour Rafael Nadal, même si, comme à chaque fois, à chaque entrée de tournoi, il a parfois un tout petit peu de difficulté, mais c'est clairement lui qui domine la rencontre pour l'instant. 4-2 pour Nadal dans la première manche face à Bolelli.
Et juste un mot, Maëtéo, comment ça se passe pour le Français Benoît Paire ?
Benoît Paire est opposé à l'Espagnol Ramos sur le court numéro 2. Benoît Paire qui a remporté les 2 premières manches, 7-6 et 6-4. Mais là, c'est Ramos qui mène 6-5 dans le 3e set.
Merci Matteo Maestrachi en direct de Roland-Garros, 16h03 sur Inter.
Chut.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet pour le jeu des 1000 euros. Je vous attends nombreux pour des enregistrements en public dans le Calvados, aujourd'hui mardi à Saint-Pierre-sur-Dive à 18h30 à la Halle médiévale et demain mercredi à Aunay-sur-Odon, 18h30 également à la Salle des Fêtes. À très bientôt.
Tous les dimanches, okay. À 20h10,
ouais, voilà.
Le masque et la plume.
Il est sévère.
Non.
Jérôme Garcin.
Rien à ajouter, non.
Littérature.
Je ne l'ai pas accablé.
Non, attends une seconde. Cinéma. C'est ça qui est intéressant dans le film. Il nous renvoie
ça
une image.
Ça m'avait échappé.
Théâtre.
Laissez-moi quoi. Terminer, Jacques.
Franchement, quand le rideau est tombé, on avait l'impression que ça allait commencer enfin.
Pour assister à l'enregistrement du prochain masque et la plume.
Pardon. Oui, mais non.
Rendez-vous jeudi dès 19h devant la porte B de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. France Inter. La différence.
Il compulse ses notes, c'est à lui. Allez, c'est à vous, Frédéric Lodéon.
Merci, Laetitia Gaillet.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, quelques chapitres, le festival d'Auvers-sur-Oise, vous savez, notre partenaire, qui est magnifique parce qu'il y a une tradition, parce qu'il y a une nature, parce qu'il y a de belles maisons. Vincent Van Gogh, qu'on appelle Van Gogh chez nous, est venu mourir là, mais avant, en 70 jours, il a créé 70 toiles, la maison du docteur Gachet, le musée de l'absinthe, toutes sortes de lieux historiques absolument extraordinaires. Puis la musique, sous la houlette du pianiste Pascal Escamp, qui est directeur de ce très beau festival, et à France Inter, nous sommes partenaires depuis longtemps maintenant, on en est très fiers. Donc il va y avoir par exemple une pianiste absolument magnifique, elle aussi dans cet écrin, elle s'appelle, il faut s'accrocher un tout petit peu, Katia Bouniatichvili. On la compare déjà à Martha Argerich, ça n'est pas peu dire, et elle joue avec une puissance qui dénote un peu avec sa frêle apparence, elle est charmante, elle est légère, toute féminine, et vous allez entendre ce qu'elle peut déclencher dans une œuvre de Franz Liszt, la sonate Allegro Energico. Thank you. La première partie de l'Allegro Energico de la sonate fameuse et unique de Franz Liszt par Katia Bugnatishvili.